tout de suite, c'est le journal avec Delphine Evenou. Rebonsoir Delphine.
Bonsoir. À la une, un nom qui circulait depuis lundi, Giuseppe Conte. Il est désormais officiellement chef du gouvernement italien. Une légitimité à construire et l'Europe à rassurer. C'est la première fois qu'elle prend la parole. Yulia Skripal, empoisonnée en mars avec son espion de père, raconte une vie bouleversée. La mort présumée de Salim Ben Ghalem, djihadiste français lié aux attentats de 2015, il aurait été tué en Syrie. Au sommaire également les promesses des géants du numérique, invités à l'Elysée, la détermination de l'intersyndicale de la SNCF après le non franc des cheminots à la réforme du ferroviaire, le glyphosate qui s'invite dans les débats sur l'agriculture et l'alimentation à l'Assemblée nationale, et puis un nom qui fait réagir jusqu'au sommet de l'État, celui d'Adrien Rabiot qui refuse de n'être que suppléant au Mondial de foot et ça pourrait lui coûter très cher. La météo, demain, des orages au nord, ce sera plus calme ailleurs.
France Inter.
Certes, la polémique sur son CV peut être un peu enjolivée, a laissé un temps planer le doute, mais Giuseppe Conte a donc finalement été adoubé Premier ministre d'Italie ce soir à l'issue d'un entretien d'une heure et demie avec le président Sergio Mattarella, à l'issue surtout de 80 jours de crise politique en Italie. L'homme du compromis entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue va devoir mettre en application un programme anti-austérité et très eurosceptique, Mathilde Imberti.
Première mission pour Giuseppe Conte, rassurer ses homologues européens. Tout juste après sa nomination ce soir, il a déclaré vouloir confirmer la place de l'Italie en Europe et dans le monde. Ce juriste, inconnu du grand public, cherche d'un autre côté à asseoir sa légitimité auprès des Italiens, assurant qu'il avait participé à la conception du programme de l'Alliance Ligue 5 étoiles et qu'il saurait défendre l'intérêt de ses compatriotes.
Je suis professeur et avocat. J'ai défendu de nombreuses causes dans ma carrière. Je m'engage à défendre l'intérêt de tous les Italiens. Et à tous les niveaux, européens et internationaux, en dialoguant avec les institutions européennes et les représentants des autres pays. Je vous propose de devenir l'avocat défenseur du peuple italien.
Les premières frictions avec l'Europe pourraient se manifester autour du ministre de l'économie. La Ligue a confirmé vouloir placer à ce poste Paolo Savona, un économiste anti-euro, alors que depuis plusieurs jours, les principaux pays d'Europe appellent l'Italie à respecter ses engagements, et notamment à maintenir sous contrôle sa colossale dette publique, la plus importante après celle de la Grèce. Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Les Européens avaient fait front commun autour du gouvernement britannique. On se souvient en mars de ces renvois de diplomates par dizaines, conflits entre occidentaux et russes autour de l'affaire Skripal. Cet ex-agent double, russe, empoisonné sur le sol anglais avec sa fille. Eh bien, Yulia Skripal a fait tout à l'heure sa première déclaration publique filmée devant les caméras de Reuters. Elle raconte sa vie bouleversée. À Londres, les précisions de Marina Daras.
Dans cette vidéo de moins de 2 minutes, Yulia Skripal se dit extrêmement chanceuse d'avoir survécu à cette tentative d'assassinat qu'elle peine toujours à comprendre. Une cicatrice rosée visible sur son cou montre les séquelles d'un traitement qu'elle qualifie d'invasif, lent et extrêmement douloureux. Filmée dans un endroit qui est resté secret, elle est toujours sous la protection de la police. Elle dit essayer chaque jour d'accepter les changements dévastateurs qui lui sont imposés tant physiquement qu'émotionnellement. Ne planifiant qu'un seul jour à la fois, tout en continuant de prendre soin de son père jusqu'à son rétablissement complet. Yulia Skripal a également tenu à réitérer les propos qu'elle avait tenus dans son communiqué à sa sortie de l'hôpital le mois dernier, où elle expliquait fermement que personne ne parlait en son nom ni en celui de son père. Après avoir remercié les services de l'ambassade de Russie à Londres, elle a décliné une fois de plus leur aide, mais dit vouloir un jour retourner en Russie. Yulia Skripal a également profité de son apparition devant la caméra pour remercier le personnel médical et les personnes qui l'ont aidé, ainsi que son père lorsqu'ils ont été trouvés inconscients sur un banc devant le supermarché de Salisbury. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Et après la crise diplomatique autour du cas Skripal, avec la question syrienne et la question ukrainienne qui sont toujours en suspens, Emmanuel Macron entame demain 2 jours de visite en Russie à l'occasion du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Il sera reçu par Vladimir Poutine. Aujourd'hui, le chef de l'État présidait une réunion au sommet à l'Élysée, une sorte de Davos du numérique. Tous les grands patrons mondiaux du secteur étaient là, Facebook, Microsoft, IBM, Intel, un déjeuner au palais et du lourd au menu, l'évasion fiscale, l'environnement, la protection des données personnelles ou encore l'ubérisation des travailleurs. Les patrons savaient qu'Emmanuel Macron leur demanderait des comptes. Ils ne sont donc pas venus les mains vides, Laurent Kramer.
car la solution, selon Emmanuel Macron, vient des patrons et le chef de l'État bouscule gentiment ses invités venus déjeuner à l'Élysée.
Thanks for being here, but as you know, in this world, there is no free lunch.
Merci d'être ici. Comme vous le savez, il n'y a jamais de repas gratuit. Plus sérieusement, Emmanuel Macron ajoute ceci.
It's not possible to have free riding on one side when you make a good business.
Il n'est pas possible d'être des clandestins du bien commun quand on fait des affaires. Emmanuel Macron attend donc des solutions pour le changement climatique, l'emploi, la réduction des inégalités. Venu des géants du numérique et des grandes entreprises françaises réunies aujourd'hui à l'Élysée, une couverture sociale par exemple pour les chauffeurs VTC, des arrêts maladie qui seront pris en charge par Uber et AXA pour ces 150 000 chauffeurs aujourd'hui sans couverture, des recrutements dans l'intelligence artificielle avec une centaine de spécialistes embauchés par Microsoft pour travailler au développement dans l'industrie de solutions sur la santé, l'environnement et les transports. Accenture a investi de son côté 200 millions de dollars sur 5 ans vers les publics les plus éloignés de l'emploi. Intel, de son côté, annonce un partenariat avec l'Institut Curie pour utiliser l'intelligence artificielle en oncologie. Google va enfin donner 100 millions de dollars pour des projets non lucratifs de formation en métier du numérique. D'autres annonces sont attendues demain au Salon Vivatech.
Laurent Kramer du service Écho de France Inter.
Le journal de 23h sur France Inter.
Il est considéré comme l'un des piliers français du groupe État islamique. Derrière les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, soupçonné de lien aussi avec les terroristes du 13 novembre, le djihadiste Salim Ben Ghalem serait mort en Syrie en novembre dernier, Sarah Guibaudot.
Oui, elle est à prendre au conditionnel en absence de preuves formelles, mais d'après France Info qu'il a révélé cet après-midi, Salim Ben Ghalem est mort dans un bombardement. À 38 ans, il était l'un des plus importants djihadistes français et un bourreau placé sur la liste noire des États-Unis. Salim Ben Ghalem a grandi dans le Val-de-Marne. À 21 ans, il est impliqué dans un règlement de compte mortel entre jeunes de Cachan et c'est en prison qu'il rencontre des islamistes du groupe des Buttes-Chaumont. En 2011, il part au Yémen, sans doute avec Shérif Kouachi, le tueur de Charlie Hebdo. Ben Ghalem aurait rencontré des responsables d'Al-Qaïda et aurait été missionné pour commettre un attentat en France. Sans résultat, à l'époque, en 2013, il rejoint en Syrie le front Al-Nusra, puis le groupe État islamique. Il intègre la police islamique tout en recrutant au téléphone d'autres Français. À Paris, il a été condamné en son absence à 15 ans de prison et il restait visé par une autre enquête pour avoir été l'un des geôliers des quatre journalistes français retenus en otage jusqu'en avril 2014. D'après l'un de ses proches, Salim Ben Ghalem ne comptait pas rentrer en France ou alors pour commettre un attentat.
Sarah Guibaudot, spécialiste police-justice de France Inter. Après les violences en marche de la manifestation des fonctionnaires, hier à Paris, 48 gardes à vue sont prolongées ce soir et 73 personnes vont être déférées en vue d'une présentation au parquet. Demain, c'est ce qu'annonce ce soir le parquet de Paris. Quelle agriculture et donc quelle alimentation pour demain? L'Assemblée nationale se penche depuis hier et jusqu'à mercredi sur cette question environnementale, économique et sociale. Au menu du premier volet du projet de loi, une meilleure rémunération des agriculteurs, inverser la construction du prix en partant du coût de revient pour les paysans. Le second volet sur une alimentation plus saine et plus durable et sur le bien-être animal promet des débats plus musclés. Ils ont d'ailleurs déjà commencé autour de la question du glyphosate. Alors que l'interdiction de l'herbicide d'ici 3 ans ne figure pas dans le texte, colère des écologistes, 44 000 signatures en bas d'une pétition. Un homme bloque, Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, Karine Bécard.
Oui, Stéphane Travert ne veut pas que la question de la sortie du glyphosate en France dans un délai de 3 ans soit retranscrite dans sa loi. Pourquoi ? Parce que ce texte parle de deux choses, de la rémunération des agriculteurs et de la qualité de notre alimentation. Autrement dit, pour le ministre de l'Agriculture, le glyphosate aujourd'hui, ce n'est pas le sujet.
Il n'y a jamais eu dans le texte la question de suppression du glyphosate. Un amendement avait été déposé, bien évidemment, et cet amendement en commission des affaires économiques avait été rejeté.
Sauf que cet amendement qui a été rejeté en commission va malgré tout revenir dans l'hémicycle. Il sera a priori débattu demain, peut-être vendredi, et surtout il est porté par une cinquantaine de députés dont une partie est issue de la majorité. C'est le cas de Mathieu Orphelin, par exemple, un proche du ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot.
Moi je pense qu'il faut avoir ce débat. On l'aura au cours du débat parlementaire. Moi, je continue à penser qu'on a une grande loi agriculture et alimentation. Ce serait dommage que la question du glyphosate n'y soit pas adressée.
Comme s'il y avait un doute, vous voyez, comme si la parole présidentielle, puisque c'est Emmanuel Macron, à l'automne dernier, qui a pris cet engagement d'une sortie du glyphosate dans 3 ans, comme si la parole présidentielle ne suffisait pas à rassurer les députés verts de la majorité.
Karine Bécard, service politique de France Inter. Un conflit social sous tension, des salariés excédés et inquiets, et une chemise arrachée, c'était en 2015. L'affaire et l'image avaient fait le tour du monde. 4 ex-employés d'Air France ont été condamnés aujourd'hui en appel à des peines de 3 à 4 mois de prison avec sursis. La réforme de la SNCF est arrivée au Sénat, pas encore en séance plénière, ce sera mardi, mais en commission. Commission qui a changé un peu le texte aujourd'hui. Plus de garanties pour les cheminots qui passeront à la concurrence, plus de garanties aussi pour garder des dessertes TGV. Les sénateurs communistes ne sont pas pour autant rassurés. Et les syndicats de cheminots, eux, continuent le combat. 21e jour de grève aujourd'hui, un taux de grévistes faible, un peu plus de 14%. Mais qu'importe, la consultation interne, la votation sur la réforme a tourné au plébiscite. 95% des cheminots ne veulent pas de cette réforme du gouvernement. De quoi ressouder l'intersyndicale, Maxime Debs?
En tout cas, ce résultat ne peut pas faire de mal. Il montre que la base reste mobilisée et que le combat des syndicats est plus que justifié. Laurent Brun de la CGT Cheminots.
La réalité, c'est qu'il y a plus de 91 000 cheminots qui se sont exprimés, et y compris énormément dans l'encadrement. Quand on entend Guillaume Pepy dire que la votation n'est pas légitime, on a tendance à dire que, pour le coup, elle démontre que c'est lui qui n'est pas légitime, et que tant qu'il n'aura pas plus de 91 000 votants en sa faveur, c'est encore nous qui sommes les plus représentatifs.
La CGT qui, à la différence de Sudrail ce soir, se refuse de demander la tête de Guillaume Pepy, ce n'est pas la question. Un bond dans ce sens également, les plus modérés, l'UNSA, la CFDT, dont on dit qu'ils pourraient quitter le mouvement très prochainement. Ce n'est pas d'actualité promis. Olivier Boissou de la CFDT justement répond le sourire aux lèvres.
Ah oui, c'est clair, alors là, mais pas du tout même. On a une bonne mobilisation, comme tenait à le rappeler Monsieur Brun. On sait que la mobilisation permettra de faire aboutir ce que nous revendiquons, ou on essaiera au moins d'aller au maximum possible. Donc, bien évidemment, il n'y a absolument pas question de sortir du mouvement au jour d'aujourd'hui. Il n'y a aucun signe d'ailleurs pour en sortir.
Et deux signes, il ne faudrait pas en donner, surtout à 2 jours d'un rendez-vous crucial vendredi à Matignon. Rendez-vous au cours duquel les syndicats espèrent toujours faire bouger quelques lignes.
Et demain, au 22e jour de grève, prévoyez un Transilien et un TER sur 2, 2 Intercités sur 5 et 3 TGV sur 5. Didier Deschamps n'en a d'abord pas cru sa boîte mail. Le sélectionneur de l'équipe de France de football a reçu un message d'Adrien Rabiot, retenu comme milieu de terrain suppléant pour le mondial en Russie, appelé donc à se tenir prêt en cas de blessure d'un titulaire. Adrien Rabiot qui dit non, pas question d'être sur la liste d'attente. Et alors que les 23 sélectionnés se sont retrouvés aujourd'hui à Clairefontaine pour débuter la préparation, Didier Deschamps, lors de sa conférence de presse, l'a remis à sa place.
J'étais surpris, bien évidemment. Après, je peux comprendre la déception, l'immense déception. Mais de là à prendre une telle position, on parle d'un jeune joueur qui est depuis un petit moment, qui était dans le groupe France. Il s'auto-exclut de lui-même. J'ose espérer qu'à travers certaines décisions comme celle-là, ça lui permettra de mûrir, de réfléchir. Je suis convaincu qu'il a fait une énorme erreur en prenant une telle position, parce que le très haut niveau, il n'y a pas de place pour les états d'âme. On se doit d'être professionnel en toutes circonstances. C'est l'équipe de France. L'équipe de France, elle est au-dessus de tout, quoi. Et on parle d'un joueur qui a peu de sélection, qui a 23 ans. Là, s'il s'auto-exclut de lui-même, j'en prends acte, je peux pas compter sur lui, c'est sa décision. Il assume.
Le sélectionneur Didier Deschamps avec Sébastien Hazard. Le football, côté polémique aussi, avec le match de l'AC Ajaccio. Des violences face aux joueurs du Havre ce week-end, condamnés jusqu'à Matignon. Les Corses avaient gagné, mais ont été sanctionnés et jouaient donc ce soir devant des gradins vides et en terrain neutre à Montpellier face à Toulouse. Match de barrage aller pour une place en Ligue 1 pour les Corses, remporté par les Toulousains ce soir 3-0. Le match retour se jouera dimanche à Toulouse.
La météo avec Hop et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud, de l'est à l'ouest, en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr ou hop.com. Hop, vous y êtes.
Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Beaucoup de nuages demain matin, dans le détail des nuages bas le long des côtes de la Manche, un ciel chargé du nord de la Seine jusqu'aux frontières du nord-est avec quelques averses, un ciel chaotique dans tout le sud-ouest avec là aussi des averses ponctuellement orageuses, de la grisaille autour du golfe du Lion et partout ailleurs les éclaircies vont se développer, des éclaircies plus larges en région PACA ainsi qu'en Corse. L'après-midi, nous allons retrouver un temps instable avec des averses orageuses dans le nord et le nord-est, encore beaucoup de nuages de la Bretagne à la Normandie, persistance d'un ciel chaotique du sud-ouest au massif central avec des averses ponctuellement orageuses et partout ailleurs, vous profiterez d'un ciel partagé entre éclaircies et cumulus. Côté température, les minimales seront comprises entre 10 et 15 degrés, les maximales seront en sensible hausse et comprises entre 20 et 28 degrés.